les temples sa finance où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
Et bien des décennies plus tard, cette chanson-là, de L'Alouette en colère de Félix Leclerc, résonne encore. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire maintenant, Logement et droit sur CFLX, le midi à 13h. Et aujourd'hui, dans la première demi-heure, ben, on dit dans l'annonce, les collaborateurs et collaboratrices en feu. Ben, Florence, bonjour.
Bonjour Alain.
Moi, Guillaume.
Bonjour Alain.
Alors, en feu, de gauche et engagé, c'est ça qui est notre annonce, et voilà. Avant que vous preniez la parole, j'ai une petite montée de lait à faire, comme tel, mais vous autres aussi, d'ailleurs, ça tombe bien, on est, de toute façon, le jour, on se reprend en colère, c'est parce qu'on va être mort. Et de ce temps-là, on est, c'était mardi, la journée de la vérité et de la réconciliation. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une cérémonie. Je ne sais pas si elle voit ici, je sais pas qui s'est passé à l'université.
Oui, à Bishop, il y avait, mon estimation, 2000 personnes.
Oui, c'est ça. Moi, pour des raisons techniques, là, je n'ai pas pu y aller. Il fallait que je fasse réparer mes lunettes. Pour conduire, réparer, ça vaut mieux. Pour avoir donc, ça a été bien?
Oui, il y a eu plusieurs prises de parole. De différents étudiants et étudiantes de différents campus, de différentes nations, puis une marche au travers de Knoxville, puis un retour au terrain de football sur le campus.
Et puis moi, j'ai écouté celle qui avait Ottawa. Je ne suis pas allé à Ottawa, là, mais j'ai écouté celle qui était à Ottawa. Il y a plusieurs personnes qui ont été pensionnaires et ils ont aussi arrivé avec les noms des personnes qui sont décédées. Mais ma montée de lait, c'est pas ça. J'ai pleuré ce bout-là. Là. Mais ma montée de lait, vous connaissez Maxime Bernier?
Ça me dit quelque chose.
Oui, mais chef du... Comment il s'appelle son parti, là? Je ne sais plus.
Mais c'est un ancien ministre conservateur, Sue Harper, qui a créé son parti plus à droite, à l'extrême droite.
Oui, puis déjà, au conservateur, il n'était pas dans le...
Soi-disant. Un parti soi-disant populaire.
Populaire, oui, c'est ça, Parti populaire du Canada, le PPC. Là. Ben, moi, je dis toujours Parti poche du Canada, là, mais bon. Mais donc, il était ministre des Affaires extérieures. Il avait emmené ses papiers, mais c'est pas juste ça. C'est pas, évidemment, il y a... Mais dans ses dernières déclarations, vous vous souvenez peut-être l'année passée, quand il y a eu des feux de forêt dans l'Ouest canadien, et comme tel, on parle de changement climatique. Hein? Puis il y en a qui disent que « fake news hein? », ben lui aussi est dans ça. Alors il disait que c'était des écologistes qui avaient allumé des feux. Pas pire, hein?
Quoi dire de plus que...
Que ça. Et là, la dernière déclaration qu'il a faite, justement, au moment de la... journée de la vérité, de la réconciliation, il a dit que les pensionnats autochtones, là, c'est pas vrai, ça.
Ah. Un négationniste.
Oui, tout se finit en S. Et il y a une sénatrice qui est autochtone, Michèle Ouellette, qui a évidemment fait une sortie en lui disant, venez vous rencontrer des gens qui ont vécu les pensionnats autochtones, évidemment, là, démolis. Mais il reste que... C'est ça. C'est quand même quelqu'un qui a une tribune. Fait que ça m'a fâché. Puis de toute façon, il y a plein d'autres choses qui nous fâchent également. Mais le discours de M. Legault, là, l'entrée. Hein? Vous en pensez, vous autres, ça? L'entrée de M. Legault sur le dos des syndicats et sur le dos des musulmans.
Mm-hmm.
Ça va mal?
C'est, oui, puis toujours au nom du peuple ou au nom des syndiqués, là, si on prend les ministres caquistes qui disent qu'ils font ça au nom, qui sont la voix des syndiqués contre les syndicats, là, c'est assez impressionnant.
Désolé quand même, hein?
Oui, puis il y a un projet de loi qui s'inspire de Carney pour accélérer les projets, soi-disant, pour le développement.
Le développement, oui.
Donc, c'est des capitaux privés qui vont être facilités pour l'extractivité, extraire les ressources, etc. Là. Donc, moins d'évaluation environnementale, pas de consultation, encore moins de consentement des premiers peuples. Là. Fait que,
aussi.
Fait que ça, c'est le gros portrait. Puis le logement, on sait que... ben, il paraît que les prières de rue, c'est un plus gros problème au Québec.
Ouais.
Les gens qui sont à la rue.
Ben oui, c'est ça. Puis quelqu'un disait, justement, hier, il y a eu une fusillade dans un café à Laval. Puis justement, c'est quelqu'un qui disait, au lieu de regarder les prières de rue, regarder les gangs de rue, qui sont plus dangereux que les prières de rue. Il y a des gens qui... Si vous voulez prendre votre café, vous autres, vous pensez pas qu'il y a une balle qui va se perdre. Là, fait que c'est en pleine heure de pointe là, au café. Fait que donc, comme vous dites, c'est ça. Fait que ça regarde pas bien pour la prochaine année. Puis, ben, ça, aujourd'hui, vous avez aussi un sujet chaud. Et comme vous dites, moi, j'ai toujours hâte quand je vois le. Rappelez Cheap.
Oui.
C'est Cheap en esti.
Le Cheap, c'est le collectif d'histoire d'éducation d'archivage populaire de Sherbrooke.
Ça va plus vite que le dire Cheap.
Oui, Cheap, c'est plus rapide.
Alors, puis c'est toujours un plaisir à chaque deux semaines. Je compte les dodos quand vous êtes là. Et je vous laisse. Excusez ma montée de lait, là, mais.
Ben non, c'est parfait. De toute façon, c'est dans l'esprit de ce qui s'en vient.
C'est ça. Je vous prépare un bel terrain.
Oui, c'est ça.
Go!
Ben donc, salut Alain. Aujourd'hui. Moi et Guillaume, on a préparé une chronique en tandem, une collaboration. Ce qu'on offre aux auditeurs et auditrices, c'est le résultat d'un échange à propos d'une nouvelle accablante. Il y a quelques semaines, Guillaume est ici présent. Allô, Guillaume.
Rebonjour.
Rebonjour.
M'a envoyé une intervention de notre cher PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, à LCN. J'écoute donc l'intervention. On s'en parle, Guillaume et moi. On n'est pas surpris, mais on est en maudit. On vient à ce moment-là de discuter avec toi, d'avoir notre chronique aux deux semaines à l'émission. Alors, je propose à Guillaume qu'on en fasse une ensemble sur cette question-là, c'est-à-dire sur le racisme crasse des nationalistes qui prennent leurs aises dans les dernières années et dont le discours prend du galon dans le terreau fertile d'une anxiété généralisée qui ne fait que s'exacerber depuis la pandémie en 2020.
Oui.
Pas que ces discours-là n'étaient pas là avant, mais on sent partout que les choses s'aggravent, que le discours se décomplexe. Là où le racisme systémique se cachait relativement bien dans les discours de bonne gestion, la violence du pur laine, l'anxiété blanche prennent désormais vraiment leurs aises et la panique morale se fait aller pour un nouveau tour. Le discours anti-gay et anti-trans, à son tour, se décomplexe. Mm-hmm. Il passe plus ou moins par le filtre de la personne correcte qui veut une maison et une famille contre la personne perverse qui menace nos bonnes mœurs. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui romantisent le Québec d'antan et qui flirtent avec les récits fascisants de la nation à aller voir du côté des auteurs et des autrices queer qui ont écrit le glauque de ce bon Québec de la famille unie et de la terre. Mm-hmm. Je pense entre autres à Marie-Claire Blais dans une saison dans la vie d'Emmanuel. C'est une excellente lecture, puis je me permets de la suggérer. Mm-hmm. Bref, je suis tentée de vous dire que cette chronique, elle vous vient aux oreilles aujourd'hui au moment où l'ère woke semble définitivement finie. Puis ça fait mal en maudit d'y penser. On se demande qui c'est qui maintenant, dans le fond, qui peut plus rien dire. Bon, allez, je vous le dis, c'est quoi cette nouvelle-là qui nous a accablé Guillaume et moi, et pas seulement nous? On vous donne un peu de contexte. Dans un article publié le 30 juillet dernier dans le Journal de Québec, on rapportait que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, avait réagi le mercredi précédent au reportage du Journal de Québec qui démontrait que le tiers des homicides survenus au Québec cette année impliquaient des jeunes de 21 ans et moins.
Oui, ça c'est terrible, là.
Oui. En 2024, les accusations de meurtre, d'extorsion et de voies de fait armées chez les mineurs auraient également atteint un sommet en 3 ans. En entrevue à LCN, Paul Saint-Pierre Plamondon a par la suite établi un lien direct, sans gêne aucune, entre l'immigration et l'implication de mineurs dans ces crimes graves au Québec. What the fuck, comme disent les Français.
Oui.
C'est quoi ce lien-là? En suivant un peu le traitement de cette affaire dans l'actualité, Guillaume a mis la main sur des articles qui rectifient les faits et qui dénoncent les amalgames non fondés, racistes et violents de PSPP. Parmi les articles portant sur cette nouvelle qui ont retenu notre attention, il y a celui de Ted Rutland dans The Rover, média indépendant qu'on se permet de vous recommander de consulter. Dans cet article-là, Rutland fait l'historique de la panique morale autour de l'immigration et de la criminalité au Québec depuis les années 60. Il retrace une histoire de l'anxiété blanche vis-à-vis une menace construite, c'est-à-dire celle de l'immigrant racisé. Sans vous faire tout le résumé de l'article, qui vaut la peine d'être consulté, on vous partage un fait important au sujet de la première escouade anti-gang de rue de Montréal créée en 1989. Cette escouade, mandatée spécifiquement pour démanteler des gangs noirs, aurait été formée en réponse à un rapport commandé par les autorités, dont le contenu portait pourtant sur des gangs majoritairement composés de Québécois blancs.
Oui.
Satisfaire des préjugés, justifier le maintien de pratiques de profilage, nourrir le cycle de criminalisation des personnes noires. Bravo SPVM, vraiment, vous avez bien fait votre job.
Il y a un certain ministre de, justement, de la Sécurité publique qui provient de ça, du CPVM.
Oui, oui, oui.
Ouais. Par hasard.
Ouais, on salue M. Lafrenière.
Oui.
Un article de Julia Posca, chercheuse à l'IRIS, a également attiré notre attention parce qu'il est fort éclairant quant à la démagogie de PSPP et de son parti. Prenant un pas de recul, l'autrice offre une vue d'ensemble qu'on aurait pu espérer dans nos rêves les plus fous de la part des journalistes de la Convergence de Québécois ou de Radio-Canada. On vous lit donc un extrait de cet article. Le taux de crimes fondés sur l'affaire, donc qui renvoie au nombre d'événements distincts dans lesquels une ou plusieurs infractions criminelles ont eu lieu pour 100 000 habitants, a connu une baisse de 38 % au Québec entre 1998 et 2024. C'est le cas aussi à Montréal, où la baisse a été de 46 %. On constate aussi une baisse du taux de jeunes inculpés par 100 000 habitants, pour 100 000 jeunes de 12 à 17 ans, et ce, tant au Québec qu'à Montréal. Donc, une augmentation dans les trois dernières années, mais une diminution globale là, depuis une trentaine d'années. On observe effectivement une hausse de ces indices depuis 2020, qui touche particulièrement les plus jeunes. Il est encore trop tôt pour parler d'une tendance lourde. Par ailleurs, le taux de crime fondé sur l'affaire demeure pour l'instant bien en deçà du niveau qu'il atteignait à la fin des années 90. On vous invite d'ailleurs à aller consulter les données statistiques de Statistique Canada publiées dans l'article de Julia Posca sur le site web de l'IRIS, les taux de criminalité apparaissant significativement plus bas dans les dernières années qu'au sommet de la guerre des motards dans les années 2000. Mm-hmm. Pourtant, à en croire les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'agissait alors de la belle époque de la criminalité au Québec.
Ben oui.
Alors que la violence qui faisait rage dans les rues était bien de chez nous.
Oui, c'était local. C'était fait par au Québec, par des Québécois touches.
Notre violence à nous.
Ah!
Yes!
Bien, ici, il y avait les Hells, puis il y avait la brasserie qui a fermé, là, le pavillon 7 là, du Cégep, là, dans le temps, là, la Beaucifaille. Mm. Puis il y a eu dans le cours quelques fois qu'il y a eu des... Mais c'était local.
C'est ça. Et tu nous devances un peu. Là.
Excuse-moi.
On y arrive.
Excuse-moi.
Non, c'est parfait, c'est parfait. C'est une bonne intuition. L'indice de gravité de la criminalité est, lui aussi, en diminution au Québec depuis 1998. Là encore, on remarque une légère hausse depuis 2020. Chez les jeunes, cette hausse est attribuable à une augmentation de l'indice des crimes avec violence qui a débuté en 2007. Donc, un nouvel indice qui est né, puis qui peut être la cause aussi de cette hausse-là. Mais Posca ajoute quelque chose d'important. Malgré cette tendance, le nombre et le taux d'homicides pour 100 000 habitants ont connu une importante baisse au Québec depuis un sommet observé en 1975. Le taux d'homicide pour lesquels l'homicide est lié ou soupçonné être lié au crime organisé ou à un gang de rue suit lui aussi une tendance à la baisse depuis 1999. Enfin, à Montréal, on observe aussi une diminution du nombre d'homicides depuis 1996, ce qui se traduit par un taux d'homicide pour 100 000 habitants, environ trois fois moins élevé en 2024 qu'en 1996.
OK.
En somme, la criminalité a globalement diminué au Québec, ainsi que la gravité des crimes commis durant une période où le pourcentage de la population issue de l'immigration a pour sa part eu tendance à croître, passant de 9 % à 15 % entre 1996 et 2021. Mm-hmm. C'est le cas aussi à Montréal, qui accueille la proportion la plus élevée de personnes immigrantes au Québec.
Mais c'est une grosse ville.
En gros, PSPP nous met carrément sur une fausse piste. Il attise une inquiétude qui n'a peut-être même pas lieu d'être et, si c'est le cas, si cette inquiétude est justifiée, le chef du Parti du Bon Québec attire notre attention dans la mauvaise direction. Il profite de l'occasion pour enflammer les braises xénophobes qui habitent les cœurs des colons. Dans ce sens-là, je vais me permettre de vous proposer une petite analyse culturelle des propos du plus si jeune poulain du PQ. Dans son intervention à LCN, PSPP a mis l'accent sur son impression quant au modus operandi nouveau des groupes criminalisés, déclarant d'emblée, et je le cite, « ne pas avoir l'expertise nécessaire pour dire de quel ordre ça a lieu », PSPP a quand même parlé de recrutement sur une base ethnoculturelle et de nouvelles formes d'agressivité qui viendraient bousculer une espèce d'équilibre, nous a-t-il dit, devant laquelle il déclare la société québécoise désormais mal adaptée. Je vais me permettre de m'adresser directement à Paul, si vous me permettez. Là.
Bien, il nous écoute actuellement et on le salue.
On le salue, c'est ça. Donc, pour ce que ça donne, là, si vous me laissez aller, je lui parle un petit peu.
Vas-y.
Deux choses, cher Paul. D'abord, ton discours heurte nos esprits analytiques à plein d'égards, mais je voudrais attirer l'attention sur les entourloupes suivantes. Tu nous parles d'une mauvaise adaptation de l'appareil d'État que tu associes à un phénomène dont tu ne connais rien. On pourrait parler d'une vue de ton esprit au sujet de laquelle tu déclares quand même t'être permis d'aller questionner des parents maghrébins endeuillés.
Oui, en plus, t'imagines-toi, là.
C'est déjà pas rien.
Oui.
Mais alors que tu nous annonces la venue d'un phénomène nouveau, dont tu connais mal les contours et que tu ne saurais décrire, mais que tu incarnes dans la figure de l'ennemi racisé, tu suggères d'agir avec la même panoplie qu'à l'habitude, c'est-à-dire une démarche politico-juridique de légitimation de la violence d'État. Dixit, la tenue d'une commission parlementaire pour avoir l'autorisation, tout simplement, de déployer plus de violence d'État. Plus de police, plus de travailleurs sociaux qui collaborent avec cette dernière de préférence. On est mal adapté, donc, mais on va faire comme d'habitude, en frappant plus fort. Le constat psychopop n'est pas trop compliqué à faire, là, le pattern a l'air toxique. Ensuite, ta manière, Paul, de faire apparaître sur la place publique ces nouvelles méthodes des groupes criminalisés, méthodes inquiétantes, insistes-tu, par le fait qu'elles seraient venues d'ailleurs, qu'elles bousculeraient notre équilibre interne, ça nous laisse perplexes. En parlant ainsi de méthodes nouvelles venues d'ailleurs, tu puises dans le tissage réactionnaire d'une culture populaire qu'on connaît bien. Celle du criminel bon père de famille avec un code d'honneur. Celle qui romantise les gangs de motards et le halo police, qui romantise une figure mythique du folklore blanc québécois.
Oui, tu sais quoi, Florence? Moi, en entendant PSPP, je me suis justement demandé, là, c'est quel groupe qui provient de l'étranger? J'aime mieux, je préfère le terme de l'extérieur, comme disait la poétesse québécoise indépendantiste Pauline Julien dans sa pièce « L'étranger ». Nous voulons un monde où il n'y aura plus d'étrangers. Un petit rappel, parce que la mémoire, ce temps-ci, ça fait défaut.
Oui, c'est ça. Les personnes âgées, là, PSPP, il est jeune.
Donc, un groupe qui vient de l'extérieur, pensez-y, là. Je vous fais une petite devinette à l'auditoire, là. Quel est que ce groupe criminel le plus puissant et riche au Québec? Ça, c'est quand même un gros indice, depuis environ 40 ans. Et qui recrute, ça c'est moins connu, sur une base dite ethnique. Ben, la voilà la réponse. Ils proviennent de Californie, les Anges de l'Enfer.
Ah.
Sont une organisation criminelle qui repose sur le suprémacisme blanc, à la base. Donc, les gens qui sont dans l'histoire de Hells Angels sont tous patchés, c'est tous des blancs, ou assimilés à la peau blanche, là. Donc, il n'y a pas de noir dans les Hells Angels, ni de gens à la peau trop foncée.
Mm-hmm.
Donc, PSPP, je me souviens de rien. Monsieur, je me souviens de rien, a omis de le mentionner. Comme il a oublié, pourtant plus âgé que moi, la guerre des motards dans un Québec imaginaire paisible et non violent.
Mm-hmm.
Soit plus de 150 morts en 8 ans, de 1994 à 2002. Dont le jeune Daniel Desrochers, tué à l'âge de 11 ans en 1995 devant l'école Saint-Nom-de-Jésus. Suite à l'explosion en plein jour d'un véhicule piégé.
Je me souviens exactement, oui.
Dans un quartier historiquement ouvrier canadien-français,
mm-hmm.
Hochelaga-Maisonneuve.
Ouais.
Moi, je m'en souviens comme si c'était hier.
Moi aussi,
l'âge de...
Moi, j'avais plus que ça, là. Mais je m'en souviens exactement. Ça m'a frappé les mains.
Et je fais référence à l'article de Julia Posca, mais on peut aussi trouver de... Je parlerai pas des taux des années 70, là, les taux de violence qui étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui aussi. Donc, pourquoi donc la récente gang aux activités criminelles, dite Arab Power, qui a été nommée par PSPP, qui recrute sur une base ethnique, elle fait partie de l'émergence des groupes criminels nouveaux qui amènent au Québec des techniques de criminalité plus agressives pour lesquelles, à l'évidence, on est mal adapté. Mais pourquoi que PSPP nomme celle-là? Il pourrait d'ailleurs nommer une autre gang émergente, je ne la nommerai pas pour y faire de la publicité, mais qui a quand même eu beaucoup d'affrontements avec les Anges de l'Enfer dans les dernières années. Mais cette gang-là recrute sur une base multiethnique, d'ailleurs. Mais pourquoi il fait ça? C'est pour alimenter à la fois la xénophobie, la peur envers les personnes migrantes et l'islamophobie,
ouais.
Les deux d'un coup, en associant violence criminelle à un groupe ethnoculturel associé à la religion musulmane, les Arabes. Depuis la Charte des valeurs, la menace de la femme musulmane portant le foulard est payante électoralement pour le Parti québécois et la CAQ notamment, allant jusqu'à brimer des droits et libertés de la Charte québécoise, qui fête pourtant cette année son 50e anniversaire.
En fait, Guillaume, je pense qu'on est d'accord sur le fait que PSPP flatte sa base avec ses associations douteuses et xénophobes.
Oui.
Ce qui me frappe aussi, c'est sa manière de réanimer certains fantômes qui hantent les récits et les mythes populaires d'un certain Québec blanc et francophone. À l'entendre parler d'une violence moins inquiétante parce qu'on la connaît, on croirait qu'il cherche à mettre sous le tapis les violences de mon oncle Maurice et à revaloriser son code d'honneur suprémaciste blanc et masculiniste. Romantiser cette violence-là, faire disparaître le rôle et l'ampleur des violences misogynes dans le déploiement de cette guerre des motards et plus largement dans la culture qui a été son terreau, c'est déjà bad. C'est encore plus bad de le faire en foutant les populations migrantes sous le bus, en utilisant les violences faites aux femmes, cis et trans, pour les mettre au service d'un discours et d'un projet qui, s'il ne se contente pas de reproduire les violences, les exacerbera. Analyser les propos de PSPP me laisse sous une chute qui n'en finit plus de questions. Je me demande ce qu'il cherche à faire, notre cher Paul. Réaffirmer à qui revient le monopole de la violence légitime? L'État, la police et nos pères blancs, de souche? C'est bien l'ordre qui prévaut dans le système politique qui nous oppresse. À le voir animer les populations opprimées les unes contre les autres, je ne peux que prendre parti pour cette thèse. PSPP fait appel à une stratégie classique qui consiste à monter les exploités les uns contre les autres en faisant appel aux mythes, aux peurs et à l'anxiété blanche afin d'éviter toute solidarité qui pourrait nuire à la consolidation d'une élite blanche francophone endormie par le fantasme colonisateur d'être maître chez soi, ou pire encore, qui pourrait mener à quelque chose comme un soulèvement de celles qui aspirent à l'autonomie sans l'exercice de la domination et de l'exploitation. Éviter les solidarités concrètes à tout prix, donc, quitte à partager le pouvoir avec les féministes blanches, à la limite, ça passe encore. En fait, j'ai envie de vous partager un concept clé de la montée des mouvements de droite nationaliste, et notamment de leur penchant institutionnel, c'est-à-dire au sein des partis politiques. Je parle du fémonationalisme. Suivez-moi, je vous offre quelques explications.
Ah, vas-y!
Dans son intervention à LCN, PSPP lançait l'alerte. Il se pourrait que Montréal se transforme complètement, qu'elle devienne une ville où on n'est pas en sécurité, ou pire, les femmes ne sont pas en sécurité. PSPP nous parle ici de cette même ville où la police tue des jeunes hommes noirs à bout portant, les criminalise, poussant leurs mères, leurs sœurs, leurs amis dans la nécessité froide de la violence d'État. Je vous invite à ce compte à prendre connaissance de l'ouvrage de Gwenola Ricordo, Pour elles toutes, qui fait un tour d'horizon des violences faites aux femmes dans le système pénal. Cette ville qui s'est modernisée en mettant les femmes trans sous les coups des matraques des policiers, au moment même où on nationalisait l'hydro et où on bâtissait à vitesse grand V la fierté nationale. Mais comment ça marche donc le fémonationalisme? Et qu'est-ce qu'il fait, PSPP, quand il invite la vulnérabilité des femmes au procès patenté des personnes migrantes? Selon la définition du site web Sud-Éducation, le concept de fémonationalisme désigne l'instrumentalisation de la question du féminisme et de l'émancipation des femmes à des fins racistes. Tout simplement. Reprenant le cas français qui inspire tant les amis du PQ, un article de Sud-Éducation explique que le fémonationalisme se traduit par le fait de pointer les étrangers et les Français racisés comme principaux responsables des violences sexistes et sexuelles, en particulier dans l'espace public, afin d'alimenter les stéréotypes racistes de l'étranger, ce barbare en puissance responsable de toutes les violences, cette menace permanente contre l'ordre social et l'identité nationale. Sud-Éducation ajoute que pour séduire l'électorat féminin, le Rassemblement national a développé cette rhétorique fémonationaliste, stigmatisant les quartiers de banlieues populaires comme territoires où le sexisme régnerait plus qu'ailleurs et présentant sa politique anti-immigration comme une garantie de sécurité pour les femmes. Dans la même logique, la fachosphère et autres réac n'auraient pas manqué d'accompagner de commentaires racistes leur indignation artificielle contre l'agression de Julia, une jeune femme trans, sur la place de la République à Paris. Ça me rappelle que dernièrement, un colon violent qui a harcelé des violentés des gens à Sherbrooke se targuait sur sa page Facebook d'être bienveillant avec les gays. Disant même les aimer, tant qu'ils ne sont pas pervers et qu'ils ne menacent pas nos familles et ne menacent pas l'intégrité de genre de nos enfants. Ici, on est face à des relents du premier concept dont je vous ai parlé, du fémonationalisme, mais sous une autre forme pernicieuse. Je parle de l'homonationalisme. J'aime les gays, donc les gays bons citoyens, au service de la nation, qui écoutent mes jokes racistes, qui restent bien à leur place et qui gardent le sexe dans la chambre à coucher, là où Pierre-Éliott Trudeau l'a confiné à la fin des années 60, quand les attaques policières étaient perpétrées dans l'ancien village de Montréal et que le maire Drapeau se vantait de faire le ménage, euphémisant le travail de ces hommes de bras qui passaient à tabac les créatures qui défient les dictats de genre et l'hétéropatriarcat, et que les soi-disant vrais hommes qui n'apprennent jamais à se gérer ont probablement juste honte de désirer. Pareil comme pour les femmes, au fond. On les aime, on les accepte, on les valorise, mais à condition qu'elles se détestent et qu'elles détestent les autres femmes avec nous. Il faut se mettre du bon côté de l'histoire, et de la lutte des classes.
D'ailleurs, Florence, le nationalisme de PSPP s'en fout bien de la lutte des classes. Ou plutôt, il sait où se positionner pour en tirer profit. La construction du bloc national, peu importe les classes sociales, c'est ça qui est primordial. Parler de criminalité chez les jeunes sans aborder les inégalités, c'est révoltant. Dans le mémoire que j'ai déposé il y a 2 ans à la Commission municipale sur le logement, je disais, je cite une partie du mémoire, avec son spectacle horrible de séduction de mode de vie exclusif, le capitalisme rend désirable ce qui nuit à la vie, autant sociale que du reste du vivant. Et pour atteindre cette élite exclusive, ou seulement pour traverser cette vie en désespoir de mieux, La société s'étonne que la douleur et la rancœur amènent plusieurs à la violence, envers soi, envers ses proches, jusqu'à l'adhésion aux méthodes criminelles pour penser s'élever, s'affirmer, avoir une place. Je suis locataire depuis 1995. J'ai vécu 10 ans dans un bloc privé de 40 appartements dans un quartier populaire réputé BS. Avoir honte de son adresse n'est pas une chose commune, mais bien réelle. Tout comme le sentiment profond de n'être pas chez soi nulle part. Que notre seul mot à dire chaque année, c'est de reconduire le bail et d'accepter ou non l'augmentation du prix du loyer.
Oui.
Donc, PSPP, quand il parle de logement, il parle d'immigration. Quand il parle de criminalité, il parle d'immigration. Ou de changement démographique. Pourtant, le pouvoir et la richesse des boss et des proprios millionnaires qui ont plusieurs résidences, mettent du monde à la rue ou les égorgent financièrement de hausses de loyer, eh bien, ces grosses poches au sommet de la pyramide, PSPP n'en parle pas. Oui, il en parle pour les nommer comme des fiertés nationales, des exemples d'excellence du Québec Inc., comme son bon chum de Québécois, le milliardaire Pierre-Carl Péladeau.
Qui était chef, d'ailleurs, du Parti québécois lui-même.
Oui, il est reconnu pour des belles valeurs québécoises anti-syndicales.
Oui!
Notamment. La plupart d'entre eux ont une armée de comptables pour faciliter des montages financiers douteux, reposant sur l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, et certains font probablement carrément du blanchiment de recettes criminelles. Et cette gang d'ultra-riches jouissent d'entendre PSPP lier problèmes de logement, de garderie, de services publics à l'immigration. Tandis qu'eux restent dans l'ombre et que certains vont en retour des bons services politiques rendus financer sa campagne. Ce sera eux, ensemble pour le pays, comme bloc national, qui se construit contre la menace des autres. En terminant, si vous me permettez, je voudrais souligner que PSPP passe sous silence également que les terres sur lesquelles son peuple a grandi depuis le début de la colonisation sont des terres volées.
Oui.
Des territoires autochtones non cédés.
Exactement.
Pas un mot, donc, sur le plus grand vol criminel que ces territoires appelés Québec ont connu, soit la prise de possession successive par la Couronne de France, la Couronne britannique et le Canada, prison des peuples depuis 1867. Pourtant, les prisons, les polices, les gardes-chasse, les parcs nationaux, les pourvoiries privées, les pensionnats, la pollution et les changements climatiques, tout ça est très récent dans l'histoire pour plusieurs communautés. Et pour l'ensemble des communautés, ça laisse de profondes blessures et cicatrices qui exigent réparation. Et ça commence par leur droit à l'autodétermination et le respect de leur gouvernance politique traditionnelle dans plusieurs nations. Comme la protection face à l'exploitation de l'industrie forestière, comme on l'a vu dans les derniers mois.
Oui.
PSPP est mal parti pour un pays décolonial, lui qui défend les pouvoirs du Québec sur les premiers peuples en matière de langue, de protection à l'enfance et d'exploitation durable des ressources. En guillemets. PSPP, comme le fédéral, annonce un pays qui les traite au mieux comme des municipalités. Car les lois et le territoire du Québec ne font qu'un, incontestable pour l'État. Il me semble que cela est un miroir du fédéralisme canadien duquel PSPP prétend vouloir échapper. N'oublions pas aussi que, comme le dit bien la 6e déclaration de la Selva Lankandona de 2005, je fais référence aux apatistes dans un coin du sud-est du Mexique, qui est un réseau d'organisations de lutte anticapitaliste au niveau national et international. Je les cite, eux qui connaissent très bien c'est quoi la criminalité et la violence.
Oui.
Nous voyons aussi que le narcotrafic et les crimes augmentent. Et parfois, nous pensons que les criminels sont comme on les montre dans les chansons, les corridos et les films. Et peut-être que certains le sont, mais ce ne sont pas les vrais chefs. Les vrais chefs sont bien habillés, ont fait leurs études à l'étranger, sont élégants, ne se cachent pas, mais mangent dans de bons restaurants et font la une des journaux, bien beaux et bien habillés dans leurs fêtes. Ce sont, comme on dit, des gens bien. Et certains sont même des dirigeants, députés, sénateurs, secrétaires d'État, entrepreneurs prospères, chefs de police, généraux. Autrement dit, le capitalisme est le plus grand crime. Les affaires illégales ont des marges bénéficiaires plus intéressantes. C'est donc attractif pour les investissements. Rappelons-nous que tous les flux de ces hommes d'affaires se recroisent et que la frontière entre illégal et légal est mince. Pour terminer, en reprenant le syndicaliste québécois Michel Chartrand, quand les bandits sont au pouvoir, la place de quelqu'un d'honnête est en prison, souligne-t-il.
Et je voyais sur Facebook un petit dessin, le petit garçon, il dit « si je suis un voleur, je vais-tu aller en prison? » Elle dit « Non, tu vas aller au gouvernement. » merveilleux. Puis ce qui est le fun, c'est que votre analyse aussi se base sur des données. Beaucoup plus que ce que les politiciens pour politiciennes. Puis je compléterais, justement, on se rappelle, vendredi dernier, c'est ça, il y a lors de la journée là, sur l'environnement. Il y a eu une mémoire du jeune homme qui est mort à, justement à Longueuil.
Nourane.
Puis vous voyez, là, personne s'est c'est ému de ça, là. Bon.
J'ai vu plus d'émotions pour Charlie Kirk que,
oui, effectivement.
Que pour le jeune de 15 ans, Nourane.
Exactement. Puis,
au Québec.
Puis là, ben, tout de suite, il y a eu deux marches encadrées par la police, comme si... Puis finalement, là...
Ben, mm-hmm.
Puis justement, ben, il y a un monsieur qui est devenu mon ami quand j'ai rappelé que des paroles comme celles qu'on cite, là, le Legault puis le Paul Saint-Pierre Plamondon, là, ben, encourage les gens à voir parce qu'il y a, il y a quelqu'un de couleur dans ta rue, que ça va être des gangs. Ça encourage ça, là.
Oui. Je voudrais juste dire que ça a été quand même encourageant, puis ça a fait un baume de voir circuler des images des proches, des amis, puis des gens aussi solidaires de la famille de Nourane. Puis ça a été touchant de voir les images des gens rassemblés pour ses funérailles, puis pour les marches. Autant que ça a été déchirant, puis difficile de voir l'anti-émeute taper sur les boucliers
ben oui.
À l'occasion de leur manifestation.
C'est ça. Puis la veille, il y avait eu aussi un média d'extrême droite, là,
ouais.
qui est allé foutre le bordel, là, pour dire d'autres choses.
C'est
là.
Ça. Mais bon, c'est bien de prendre un moment pour se rappeler aussi des gens qui se rassemblent positivement puis qui s'opposent à ces forces-là.
Puis des gens comme vous autres qui apportez un merveilleux éclairage, je le dis encore, puis pas pour être fin, là, je le dis au micro, je le dis n'importe quand.
Mais c'est quand même gentil, Alain, merci.
Oui, mais c'est ça.
Merci.
On va aller à la pause. On va parler de logement. L'association locataire, il paraît qu'il y a des élections municipales. Ils disent ça, je suppose.
Ça sent bien.
Ils disent ça. Fait que restez-vous avec moi ou...
Peut-être pour quelques minutes.
Moi, il n'y a pas de problème. Vous êtes toujours les bienvenus. Puis comme je vous dis, moi, je suis très heureux le soir où j'ai rencontré les gens, là, justement, du CHIP à une rencontre, justement, par Solidarité Populaire Estrie avec Marie-Anita qui avait organisé. Tu connais probablement Marie-Anita. qui avait organisé ça. Ben, justement, ce soir-là, j'ai rencontré les gens comme vous autres, puis qui apportaient, justement, ce qu'il faut dire. Il faut être différent, justement, des autres médias.
Bien, merci en tout cas de nous donner l'occasion de partager ces analyses-là.
Et donc, on va aller à la pause. On va pour rejoindre Isabelle Pouliot aussi de l'association. Puis on aura justement un chant autochtone, Nouchimit. Je ne peux pas vous traduire. Tu connais tout
ça? Ça veut dire le territoire, Nouchimit.
Ah, ben moi.
En Innu.
Ah, ben c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît ces langues. Là. Non, puis justement, le territoire, justement, ben actuellement, là, justement, ça va très bien, ça. Les lois. Actuellement, que autant fédérales que provinciales ne sont pas très bonnes pour le territoire. Fait qu'on, on pose musique et on va rejoindre Isabelle Bourque, justement, de l'Association locataire de Sherbrooke.
33 minutes.
Ce vendredi, le Phoenix de Sherbrooke reçoit les Olympiques de Gatineau dès 19h. Match Oktoberfest présenté par IGA Couture et IGA Saint-Pierre.
Dimanche 15h, vos oiseaux affrontent les cataractes de Shawinigan.
Spécial party pyjama pour la fête de mix. BFénix.ca.
Bonjour, ici René Cochot. J'anime l'émission littéraire Le Cochot Show. Cette semaine, je vous invite à lire le roman 180 de Martin Bélanger. Dans 180, l'auteur nous introduit dans la vie de Thomas Delage qui s'apprête à subir une opération visant à renverser une vasectomie et à le rendre de nouveau fertile. Thomas est engagé dans une relation amoureuse avec Armel qui désire avoir un enfant. Pourtant, Thomas n'a jamais voulu devenir père. Et voilà qu'il rencontre Marianne, une ancienne flamme à l'époque de ses études universitaires.
J'ai essayé peut-être de laisser comme impression que ben la vie, c'est l'amour, c'est les épreuves. On change les volte-face. Parfois, quand on est jeune, on se cohabite de convictions qui vont être inébranlables. C'est l'inverse. Donc, il n'y a rien de honteux à vouloir inverser sa vasectomie. Il n'y a rien de... Ça fait partie de la vie.
CFLX 95.5 FM. Pas pire, pantoute.
quoi tout éteint, si nous n'est-ce que ma tante manteau. Me loi tout éteint, nous t'y me détaillac, soit tout éteint, il nous redoune. J'espoir tout éteint, il y en était assis. Echo, ma mouri te ta. Wea, wea, yo. Wea, wea, ino. Wea, 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 ino. Wea, wea, yo. Wea, wea, ino. Wea, 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 ino. Pas écouté. Chasse quiste te nano, ta meute te doutipeut. Le vent se lève, il est temps de partir vers l'intérieur des terres. Wea, wea, yo.
Et oui, on parle de territoire. Sur le territoire, il y a aussi du logement. Et bien sûr, l'association locataire de Sherbrooke, cette période de campagne électorale est active. Fait qu'on rejoint par téléphone Isabelle Bourque de l'association locataire de Sherbrooke. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour Alain.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, ben oui, ben oui. Ben bienvenue. c'est pas mal une de tes premières interventions dans une entrevue.
Oui, c'est ma première.
Bon, mais il y a toujours une première à quelque chose, tu vois, ça va bien se passer. Moi, je travaille pas dans les médias de droite, fait que je suis favorable aux revendications de l'association locataire. Je connais ça un peu. justement, pour dire, Isabelle, même si on ne voit pas souvent à TV ou comme tel, ou dans les choses, depuis de nombreuses années que tu es justement engagé à l'association locataire, ça fait déjà plusieurs années, Isabelle, que tu milites, que tu travailles à l'association locataire.
Oui, dans le fond, je suis impliquée depuis 20 ans. Ben, comme tu sais, Alain, on a 6 mois de différence.
Oui, c'est ça. Et puis, ben, faut dire que tous les deux, Isabelle et moi, on a été engagés pour des projets de 6 mois. Fait que normalement, ouais. Ça couture quand tu dis que ça dure 6 mois, là. Si c'est pas vrai. Et justement, ben, ça permet justement de voir qu'à travers les années, ça change pas, hein?
Non, ça change pas et ça se dégrade.
Exactement. Ça fait qu'on salue M. Legault et tout son gouvernement qui dit que ça va bien aller. Il paraît qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent, Isabelle. Je sais pas, t'as entendu parler de ça, toi?
Ah, je ne savais pas. Pourtant, non. Depuis le début du an, on a commencé à faire la campagne électorale.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'affiches. Hein. C'est comme les maisons à vendre. Il y a des gens qu'on voit partout. Et justement, ben, il y a actuellement... Ce qui est le fun, moi, je me dis, il devrait y avoir des élections au moins à tous les 2 ans. Parce que, mon Dieu, qu'ils s'en promettent des choses, hein?
Oui, il y a beaucoup d'engagement. Bon, on verra avec le temps.
Oui, exactement.
Si ça se réalise tout. Nous, on a rencontré, dans le fond, 3 candidats et candidates à la mairie.
Oui.
Ceux-ci ont l'air ouverts à nos revendications. Comme tu sais, Alain, on porte 4 revendications.
Peut-être les rappeler pour nos auditeurs, auditrices, là, justement, oui. Qui font partie de la pétition, d'ailleurs, aussi, qui est en cours présentement.
Oui, il n'y a pas de problème. Alain, j'allais le faire.
Oui.
Nous revendiquons le financement, le financement de 50 000 $ récurrent pour l'association des locataires de Sherbrooke. Nous revendiquons le 20% de logements sociaux pour le parc de logements entier d'ici 2040. Puis, nous revendiquons aussi l'église Sainte-Famille depuis le mois de novembre dernier qu'on le revendique. Et notre dernière revendication, c'est considérant la collaboration de la ville avec les groupes. Alors, notre pétition va bien, bon train.
Oui.
Nous avons collecté plusieurs noms depuis deux mois lors de différentes activités. Ainsi, vous le retrouvez sur Internet.
Et aussi, il y a les papiers là, dans les différents endroits où on va comme tel. Là. Et,
oui.
Puis les gens, ils sont bien réceptifs à ça aussi. Là.
Oui, mais dans le fond, ce n'est pas le nombre qu'on voulait. C'est vraiment de faire connaître nos revendications et que ces personnes-là, quand ils rencontrent des candidats et candidates de leur district, ben c'est de savoir leur position.
Et si on revient aux différents candidats et candidates, dans leurs engagements, entre autres, parce que je regarde actuellement, je vois sur Internet la plupart des candidats et candidates, il va y en avoir du logement qui va se bâtir. Là. Ça va,
oui!
Ça va construire.
Guillaume Briand.
Hein, Guillaume, il y a... comment qu'il a dit que le logement, lui-là, il y a...
Guillaume Briand, c'est 8 000 logements d'ici 2029, dont 20 % de logements sociaux. Puis Raïs Bonge, lui dit qu'il allait en faire 12 millions de l'or d'ici 2029, plus un 15 millions de dollars de rénovation à HLM.
OK. Hey, l'argent, ça va sortir?
Oui, on verra la suite après les élections, qui va gagner aussi.
Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, puis tout à l'heure aussi, justement, dans mes collaborateurs, quand on dit le mot abordable, là, ça, je sais pas toi si ça te fatigue les oreilles, mais moi, ça
oui, me moi, ça me fatigue peu abordable et hors le marché. Oui. Aussi.
Et c'est assez fatigant, effectivement. Puis, justement, Félix Leclerc qui avait une chanson qui disait avant les élections, il m'appelait Fiston, maintenant, il ne se souvient plus de mon nom. Est-ce qu'ils vont se souvenir de ça? Mais du moins, il y a un bon espoir. Du moins, là, au moins, le mot logement vient dans le discours.
Oui, c'est sûr. Puis même Marie-Claude Bibeau, qui, elle, ne parle pas vraiment d'habitation, mais elle parle beaucoup sur l'itinérance.
Bon. Et Vincent Boutin, lui, sa position sur le logement aussi?
Quand on l'a rencontré, dans le fond, il avait l'air à faveur de toutes nos revendications.
Oh.
Hey. Alors, tous ceux qu'on a rencontrés sont en faveur et ou les candidats que c'est leur première élection, ils ne s'y connaissent pas vraiment, mais ils veulent en prendre.
Bon. C'est pour ça que je dis que ça prendrait plus souvent des élections. Hein?
Oui, surtout cette année, c'est assez historique. Le nombre de candidats et candidates indépendants.
Oui.
Dans le fond, il y en a une quinzaine. Nous en avons rencontré 6. Puis, on attend toujours des nouvelles. Puis, à tous les jours, sur le site de la ville, on peut voir qu'il y a des mises à jour pour les candidats et candidates. Oui. Oui. Fait que, donc, il y en a un nouveau, là.
Moi, oui, c'est ça. C'est ça, le fils de Raif Badawi qui se présente dans le district de Rock Forest. Ça,
oui, il y a lui, mais il y en a un autre.
Un autre, oui, c'est vrai. Oui. Et ça, c'est intéressant. Puis je me dis, puis en plus, cette année, bien, je pense aussi, Isabelle, c'est pas le genre d'élection comparativement au fédéral où on savait d'avance qui c'est qui n'était pas gagné. Là, ça va être quand même un challenge. Ça va être quand même quelque chose qui va être assez. Ça risque d'être une belle lutte, là.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est historique.
Oui.
Donc, puis comme tu sais, on est non-partisans.
Exactement, c'est ça. Donc, évidemment, on les aime tous, puis oui. C'est ça. Puis eux autres, ils nous aiment.
Mais eux autres, ils nous aiment tous, ça va.
C'est ça, puis les sourires, moi, je, hein, c'est ça, là, mais, hein, ça va bien, oui, oui, ça va bien. Votre santé est bonne, oui. Vous allez être vivante jusqu'au 2 novembre, toujours, pour voter pour moi, là. Et il y a des actions qui s'en viennent, justement. On parle de cette pétition-là, justement, qui circule. Il y a eu plusieurs actions. Et une qui, peut-être pas en vue des élections, mais il y a un moment important dans tout organisme, c'est l'Assemblée générale, qui a lieu très bientôt.
Oui, notre Assemblée générale est le moment le plus important de l'année, où est-ce que nos membres prennent des positions concernant nos prochaines activités, actions et orientations. Alors, c'est le 19 octobre à Cercovie, au 300 rue du Conseil, dans la salle au sous-sol, à partir de 9h30. Alors, si vous êtes intéressé, appelez au 819-791-1514.
Est-ce qu'il faut s'inscrire? Parce qu'il y a un repas, là, évidemment, pour
oui,
que
c'est
tout
ça.
Le monde puisse manger à leur faim. Puis justement, c'est un moment important. Il y a aussi, bien sûr... deux activités qui s'en viennent en lien. Ben, un avant les élections, puis l'autre après les élections. Donc, deux activités importantes qui s'en viennent.
Bien sûr, comme quand je vous en ai fait mention, c'est que on rencontre différents candidats et candidates, puis on veut faire connaître à la population leur position sur nos revendications. Alors, le 23 octobre, il va avoir une action de visibilité sous la forme d'un référendum sur le logement. Alors, il va avoir un cadre de oui et de non.
OK. Ça nous rappelle.
Les gens vont avoir voté après avoir entendu le discours. Dans le fond, ça va se dérouler à partir de 11h30 au coin de King et Wellington. Nous allons nous diriger vers l'hôtel de ville. Mais en faisant un arrêt devant la fiche Sherbrooke n'est pas à vendre.
Oui, nous vendons Sherbrooke, là. Nous achetons oui, Sherbrooke, oui. C'est ça. C'est assez prétentieux.
Puis on demande aussi une inscription à cause du dîner offert.
Et le lendemain des élections, bien sûr, aussi, il y aura une conférence de presse aussi le 3 novembre.
Oui, il va y avoir une conférence de presse pour faire le bilan de notre campagne électorale et de dire qu'on ne lâchera pas des nouveaux et nouvelles élus.
C'est ça, pour voir si les bottines vont suivre les babines.
Oui, c'est ça.
Ben, ça promet. Fait que ça s'est bien passé, Isabelle? On n'est pas trop dur?
Non, ça n'a pas l'air. Tu m'as pas mordu encore.
J'ai deux personnes en studio là, qui te regardent et qui disent que ça va bien.
Oui, ça va un peu mal de me voir parce que je ne suis pas là.
Non, mais j'ai des visages. Je vais leur donner le petit. Je vais allumer leur petit piton. Ils vont te le dire.
Oui.
Florence, bon.
Bonjour. Oui, on n'a pas vu, mais on a bien entendu, puis on est très content des invitations, là, entre autres pour l'Assemblée générale, puis pour l'action de visibilité. On a pris ça bien en note.
Bon, on espère vous voir en grand nombre.
Et Guillaume, qui connaît un peu l'association des locataires.
Ben oui, pour défendre le droit au logement avant, pendant, après les élections, tout le temps.
Exactement. Fait que donc, ça s'est super bien passé, Isabelle. Fait que l'occasion, d'ailleurs, cette semaine, la semaine prochaine, c'est le conseil d'administration. Justement, qui va mettre en place tout ça. Ben, merci infiniment. Puis, comme tu as dit,
ça fait plaisir. Puis passez une bonne journée à tout le monde.
Merci à toi, là. Pour le droit au logement.
Au revoir.
Bye bye. Voilà. Je n'ai pas été trop dur avec.
Ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé. Effectivement. Puis peut-être une couple de petites annonces qui savent. Je sais pas si tu avais des choses à nous annoncer.
T'as
un beau calendrier, toi, là.
Oui, exactement. J'ai le calendrier Sherbrooke en lutte qui est entre autres partagé par le CHIP, là, mais qui est le produit d'une collaboration de quelques groupes à Sherbrooke. Donc, le calendrier est toujours disponible sur notre site web, le cheap.necoweb.org. On le partage aussi sur des médias sociaux, notamment sur le sherbrooke.locataire sur Instagram. Mais bon, on a donc les événements de l'Association des locataires qui se retrouvent sur le calendrier, mais aussi les permanences du CHIP. On vous invite aussi à la marche silencieuse en solidarité avec la Palestine le 7 octobre.
Oui, mardi prochain.
Mardi prochain à 17h30, là, dans le stationnement, le départ est dans le stationnement du IGA King Belvedere.
Il y a aussi, bien sûr, la campagne du coquelicot blanc. D'ailleurs, la course aux armements, il y a aussi une pétition qui circule pour la ville de Sherbrooke aussi, comme telle. Puis justement, on avait parlé un peu là aussi. Justement, le 7, je vais participer à une rencontre, justement. Ben, notre ami M. Legault, il aime beaucoup les syndicats. Puis là, ben, les syndicats sont en... Donc, l'attaque, ça se passe justement au CSI, comme tel. Donc, c'est le midi à 13h30, parce que le droit d'association... Tu sais, comme tu dis, là, il y avait Maurice Duplessis, ça ressemblait à ça, ce qu'il disait, les syndicats.
Oui, mais il me semble avoir un souvenir là, de M. Legault qui disait préférer être comparé à Duplessis qu'être un woke. Là. Il me semble l'année passée, on avait eu ce moment médiatique.
Il était bien heureux de ça. Là, puis, fait que c'est ça. Fait que donc, il y a tout ça qui s'en vient comme tel. Puis je pense que là, on parle de logement, des engagements, justement. Là, puis, je suis vieux, j'ai entendu des promesses d'élection. Mais ce qui est le fun cette année, c'est que, comme dit, il y a une campagne qui se dessine quand même plus serrée. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats, candidates comme tel. Hein, on va suivre ça. Puis comme je dis, la chronique que vous apportez à chaque deux semaines, la semaine prochaine, je vais tourner autour des élections. Je vais peut-être rencontrer du monde aussi. Mardi, qui sont en maudit dans les groupes de syndicats puis, comme tel. Puis je pense que cette émission-là a sa place.
Oui. Puis je pense aussi que c'est une occasion de montrer que la question du logement est liée à toutes les autres luttes, puis que c'est l'occasion de lier des solidarités.
Ben, puis justement, quand on parle de... Tu sais, j'aime beaucoup l'affiche que j'avais vue l'autre jour, là, sur les logements qui sont, entre autres, par Airbnb. Mais aussi, je pense que il y avait Novo qui avait sorti ça à Montréal, dans un quartier là, populaire. Des logements qui étaient apportables, qui étaient, comme ils disent tout le temps, ben, il y a 200 logements actuellement qui sont vides, volontairement. Parce que dans la loi, qui est faite, bien sûr, pour qui? Donc, dans la loi, si pendant un an, tu loues pas ton logement, l'année d'après, tu peux le monter open bar. C'est un hasard, hein? 200.
Ouais.
Il y en a qui font des calculs sur leur fichier Excel, puis... C'est ça le droit au logement pour eux autres, c'est le droit de faire le plus de profit. Donc,
on voit
les grandes villes aussi, comme Toronto, Vancouver, c'est un phénomène vraiment, une problématique vraiment grande.
C'est ça, puis c'est ces logements vides-là, c'est pas personne qui les a pris, là.
Ouais. En fait, c'est un enjeu, puis il va falloir arrêter, je pense, de naturaliser le marché puis de répondre aux demandes du marché, parce que ce qu'on constate avec la financiarisation du logement, c'est que ça devient plus payant pour les propriétaires d'avoir personne dans leur logement que de gérer des locataires.
Exactement.
Puis on le voit sur leur manière de refuser de gérer nos appels, de réparer nos logements. On est un problème pour eux plus qu'une solution. Puis des logements vides, c'est plus pratique pour eux que des locataires.
Si on parle de 200, là. Puis ça a été recensé, puis il y en a peut-être d'autres. Puis on parle d'Airbnb, là. J'avais beaucoup votre belle annonce, là. Puis que j'avais dit l'autre jour, justement, au parc Camiran. Bien, c'est ça. Puis la même chose dans l'emploi. Quaticook, Cabico, qui dit, ben là, c'est nous autres, on perd les personnes immigrantes, puis d'autres, dans l'industrie touristique, il y avait un reportage de l'industrie touristique, qui dit, si on perd nos employés, parce que leur permis ne sera pas renouvelé, puis donc, il faudra qu'ils retournent dans leur pays, ben nous autres, on met la clé dans la porte. Puis le tourisme va bien, parce que grâce à Trump, les gens, ils restent ici, puis ils mangent ici. Puis...
Mais de toute façon, on préfère les touristes qui restent pas, puis qui restent pas suffisamment longtemps dans les logements pour avoir des revendications, puis demander qu'ils soient réparés. On préfère les gens qui viennent visiter la ville que les gens qui s'y installent, puis qui l'habitent.
Fait que... tu voulais ajouter quelque chose, non? Ben, À vous deux, là, puis aussi à Isabelle, qui, je pense que, justement, que c'était sa première entrevue. On était habitué, justement, c'est Normand ou Mario. Moi, je l'ai été aussi porte-parole, là, comme tel. Puis, de toute façon, là, je pense qu'elle n'avait pas trop peur avec moi. Là. Je l'enverrai voir Mario Dumont. Ou celui dans le journal de Montréal aussi, l'autre, là. Monsieur...
Martineau?
Martineau, oui, oui. Mm. Tu lis sûrement Martineau, toi, là.
Non, jamais. Non? Jamais, je me fais pas ce tort-là.
OK, c'est ça. C'est parce que ta pression artérielle pourrait monter, puis c'est ça.
Je me garde en forme pour la lutte.
Alors, ben merci à vous deux. Merci à Isabelle. Cette émission-là, dès demain, sera disponible, d'ailleurs, en balado, sur le site Internet, pour réécouter, puis peut-être l'envoyer à PSPP en cadeau à quelqu'un de sa gang, comme tel. On se laisse une pièce de Claude Dubois. Justement, ça va bien avec les élections. Le farmer. C'est arrivé comme ça. Merci.
Merci
à tout le monde. Et puis, on vous laisse en musique, bien sûr, sur le site de CFLX. Et on se retrouve dans une semaine pour un logement, un droit.
Il est midi.
58 minutes.
Cet automne, la communauté se rassemble. À Sherbrooke, 6 centres communautaires de loisirs vous invitent à découvrir des activités pour toute la famille. Loisirs Actif Famille, Centre Multiloisirs Sherbrooke, Carrefour Accès Loisirs, Loisirs Fleury-Est, Espace Loisirs Brompton et Sherbrooke Loisirs Action. Cours, sports, ateliers, événements, il y en a pour tous les goûts et dans tous les coins de la ville. Du 29 septembre au 5 octobre, joignez-vous à la Semaine québécoise des centres communautaires de loisirs. Des loisirs pour nous, par nous, ici à Sherbrooke.
De retour en studio après une saison très relevée, le magazine Art d'œuvre poursuit sa reconnaissance et sa promotion des arts et de la culture à Sherbrooke, en Estrie, au Québec. Des entrevues, des reportages, des clins d'œil, des chroniques et des prestations, de tout pour garnir le menu et la table. Les samedis de 13h à 15h et les mardis en rediffusion de 16h à 18h. Parce qu'on vous aime, qui vient dîner avec moi, avec nous?
Grande nouveauté sur les ondes de CFLX. Du dimanche au jeudi, de minuit à 6h, syntonisez le 95.5 pour le monde du rock la nuit. Du classique rock au pop, en passant par le folk et le métal, tout y passe pour vous tenir réveillé. Du dimanche au jeudi, de minuit à 6h, c'est le monde du rock.